Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Chers auditeurs.
Dear listeners.
Bonjour.
Welcome to Comme d'Archi Podcast Season 5.
Saison 5, dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant.
Now.
Lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Martin Gaufriot. Bonjour Martin.
Bonjour.
Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte, un jeune, voire très jeune architecte.
Oui. Et enseignant aussi, c'est vraiment important dans ma double pratique. J'en reparlerai un peu plus
oui,
tard.
Oui, vous si allez, en, voilà. Bien sûr. Et vous venez de Bordeaux, je crois.
C'est ça, oui. Je viens plutôt des Landes, de Dax.
Oui.
Mais j'exerce encore à Bordeaux et je souhaite redescendre de là où je viens. Voilà.
Oui, d'accord. Alors, justement, on aime bien se nourrir à Bordeaux.
Oui.
Le goût est important dans le sud-ouest. Alors, on va commencer par cette histoire de goût. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif?
Alors, oui, j'aime beaucoup les plaisirs de la table, même si ça se voit pas beaucoup. J'en abuse d'ailleurs beaucoup. Et je me demandais justement, en écoutant vos podcasts au fil des entretiens, si quelqu'un avait dit non déjà. J'imagine que non.
Mais non, bien sûr. Quelque part, c'est un peu idiot de le poser comme
non,
ça.
Non, mais... En tout cas, moi, c'est très important pour moi, voilà. Uh-huh. Et quels sont mes préférés? Alors, je me suis souvent posé cette question et c'est extrêmement difficile pour moi de donner une réponse. Alors, je vais faire un peu la promotion de mon terroir. Et je vais vous parler donc du pastis landais. Donc ce n'est pas du tout la boisson qu'on connaît alcoolisée. C'est une brioche dont la recette se transmet de génération en génération dans les fermes, dans les aériaux. Donc parfumée au rhum et à la fleur d'oranger. Et ce que je trouve génial, c'est que c'est un mets très simple. C'est un mets qui a aussi été servi chez Michel Garrard, donc le grand chef étoilé. Et c'est aussi un mets qui peut être très employé comme architecture. Donc quand il est plus bon, on en fait du pain perdu. On peut le tartiner de confiture au petit déjeuner. Donc je trouve que c'est un produit simple, mais assez formidable. Voilà.
Ça donne envie. Et ça s'accompagne d'une boisson ou...
Non, généralement non. Ça se mange nature, mais bon, voilà, un peu de crème anglaise si on aime bien, mais voilà, quand on est gourmand.
Alors justement, je vous ai invité dans Comme d'Archi, non pas pour votre projet Europan 17, dont vous aurez peut-être à cœur de nous reparler, mais parce que j'ai remarqué votre profil suite à votre abonnement sur Instagram, Comme d'Archi Podcast, et la finesse d'un projet que j'ai vu passer dans ce cadre, d'un de vos projets, dont vous pouvez être fier, car on vient d'apprendre qu'il est sélectionné par Arche Daily.
Oui, écoutez, c'est assez surprenant et assez flatteur, d'autant que quand on rentre à l'école d'architecture, on a des grandes idées d'architecture, on étudie la modernité, alors on copie un peu Le Corbusier, ensuite on veut faire des grands projets comme Jean Nouvel, et puis il se retrouve que je me retrouve à faire pas mal de petites installations en bois, de cabanes, et c'est très important de retrouver du plaisir dans la manière de faire de l'architecture, et toute l'énergie que je pouvais mettre avant dans des projets de grande échelle, dans des petites échelles comme ça, je vois que c'est assez payant en tout cas, et que ça interpelle les gens. Donc voilà, je trouve ça très agréable.
Alors, on va tout de même commencer par le début.
Oui.
Quel est votre parcours jusqu'ici? Quelle a été votre jeunesse? où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études ?
Alors, tout d'abord, j'ai eu une enfance, mes parents ont énormément voyagé. Donc jusqu'à l'âge de 10-11 ans, nous ne sommes jamais restés au même endroit. Et ça a été très dur pour moi, en fait, d'avoir des racines, parce que pour moi, faire de l'architecture, c'est important d'être ancré dans des racines, dans une histoire locale. Et j'ai d'ailleurs écrit mon mémoire à ce sujet sur le sentiment d'appartenance aux villes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on est né à un endroit mais qu'on n'y a pas vécu, qu'est-ce qui fait qu'on se sent attaché à une ville ? Et donc, je pense que ça a beaucoup aussi forgé la manière dont je fais de l'architecture aujourd'hui. Et donc, à travers ces différents voyages, j'ai notamment vécu 2 ans au Québec et j'ai commencé à faire de l'art au Muséum d'histoire naturelle au Québec. Et je pense que surtout, ça a commencé avec beaucoup d'art plastique. Et petit à petit, en fait, mes études ont été assez compliquées puisque à la sortie du bac, donc c'était un bac ES avec une spécialité art plastique et une option maths. Donc, je me disais que c'était pas mal puisqu'on avait déjà la connaissance et la conscience du monde avec les sciences sociales, qu'on avait un peu les sciences avec les maths et qu'on avait cette sensibilité plastique avec les arts plastiques. Ça allait passer, sauf que pas du tout. Donc, j'ai été pris sur mon dernier choix qui était l'école des Beaux-Arts. Donc, j'ai passé 3 ans à l'école des Beaux-Arts où j'ai pu cultiver une...
Laquelle ?
L'école des Beaux-Arts de Bordeaux, voilà. Mmh. Où j'ai pu cultiver cette passion et cet amour pour l'art contemporain qui me fascine et que j'adore et qui prend aussi une grande place dans ma pratique aujourd'hui. Pour moi, c'était assez dur parce que je voulais vraiment rentrer en école d'architecture et pour moi, c'était un peu un second choix. Donc, je menais un peu une double vie et j'ai fait beaucoup de musique électronique à l'époque. Je mixais. Et puis, à la sortie des Beaux-Arts, je savais plus, en fait, j'étais complètement perdu. J'avais carrément oublié que je voulais faire de l'architecture. Donc, j'ai fait un BTS design d'espace pendant 2 ans. Et il se trouve que c'était un peu une manipulation de l'espace. Et après, j'ai enfin été accepté à l'école d'architecture de Bordeaux, mais en première année. Donc, j'ai recommencé l'architecture après déjà 5 ans d'études. Et pendant longtemps, j'ai pensé que c'était un peu une tare. Et finalement, j'ai trouvé que c'était passionnant, en fait, d'arriver en école d'architecture avec ce bagage qui permettait aussi de me différencier dans la production de mes projets. Voilà. Et donc après l'école d'architecture de Bordeaux, dans laquelle j'ai adoré m'investir, et j'invite les jeunes à beaucoup le faire, donc au sein du conseil d'administration de l'école, à travers des associations. J'avais créé une association qui s'appelait Culture, et donc on invitait beaucoup d'architectes à venir faire des conférences. On organisait des événements culturels, c'était passionnant, j'ai rencontré plein de gens formidables. J'ai fini mon HMONP à Paris-Val-de-Seine. Donc j'ai dû monter à Paris et j'étais salarié dans l'agence d'architecture King Kong que vous avez
interviewé.
Voilà, vous avez reçu Frédéric Nau il y a pas longtemps. Voilà.
Ouais, tout à fait. Eh bien, vous avez déjà anticipé sur la question qui arrivait. comment avez-vous commencé votre activité d'architecte ? Bon, c'était bien Val de Seine ?
Moi, j'ai beaucoup aimé Val de Seine. Oui, tout à fait. Ça s'est très bien passé. Voilà.
Alors donc, aujourd'hui, vous êtes un architecte qui en est au début de sa carrière.
Tout à fait, oui.
Donc, vous avez candidaté avec des acolytes, on va dire, à Europe en 17.
Oui.
Et vous faites des installations. Dans quel cadre vous faites ces installations ?
Alors, ces installations, en fait, elles viennent d'une histoire assez particulière. J'ai rencontré 2 amis à l'école d'architecture de Bordeaux, qui sont forcément beaucoup plus jeunes, puisque moi, je suis arrivé très tard à l'école. Et on avait tout le temps travaillé ensemble, mais dans des groupes séparés, jamais tous les trois ensemble. Et on s'est dit, c'est une bonne idée, en fait, d'essayer de faire ces concours qui sont des concours très simples, mais très compliqués à la fois, voir ce que ça donne. Donc, on a gagné le Festival des Cabanes, et puis ce concours-là. Donc c'était une demande de la mairie de Bourg-Saint-Maurice qui avait envie à travers tout le patrimoine de Charlotte Perriand aux Arcs, à la station des Arcs qui est en haut, voulait donner la chance à de jeunes architectes de proposer des installations en bois mais qui répondaient à des besoins qu'ils avaient identifiés sur certains lieux. En projet emblématique, oui, il a une grande importance en fait pour plusieurs raisons. La première, c'est que il est fait avec beaucoup de plaisir. Il est fait avec des amis que j'apprécie beaucoup et avec qui je souhaiterais m'associer à l'avenir. Et surtout, ce projet, il a été construit, enfin, il a été fait en autoconstruction. C'est-à-dire que nous avons construit ce projet nous-mêmes. Et c'est très beau et c'est quelque chose qui est de plus en plus, entre guillemets, à la mode, de joindre, en fait, la main à l'idée. Et donc de venir construire en fait soi-même ce qu'on peut imaginer. Et c'est très intéressant parce que ça nous rend responsables de ce qu'on dessine en fait. Parce que quand on dessine, il faut être sûr que ça puisse se construire. La phase réalisation était assez formidable. Donc on a été accueillis par la mairie de Bourg-Saint-Maurice dans une espèce de grand camping où il y avait toutes les équipes de réunies. Et en fait, après, on nous a livré le bois sur une grande place publique. Et à partir de ce moment-là, il a fallu se mettre à construire. On a eu aussi l'aide d'employés municipaux qui parfois ne comprenaient pas bien ce qu'on faisait. C'était assez délicat. Et c'est vrai que notre projet, donc la porte d'entrée du parc des Marais, est un projet assez polémique. Et on s'est confronté pour la première fois à des critiques très acerbes. C'est-à-dire qu'au fil de la construction de ce projet, beaucoup de gens, en fait, qui ont créé un collectif de défense du parc qui a derrière notre porte et qui avait déjà milité quelques années avant pour qu'il ne se construise rien, que le parc reste très sauvage, en passant dans cet endroit, nous faisaient des remarques très désagréables. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Pourquoi vous construisez ça là? Et c'était très dur à encaisser. Et à la fois, on avait des habitants hyper passionnés, hyper intéressés, qui venaient même nous donner un coup de main, qui mettaient la main à la pâte. Et je pense que on a vécu un spectre très large de ce que pouvait en tout cas recevoir un architecte comme critique, que ce soit négatif ou positif. Donc nous, ça nous a mis un petit coup, mais parce qu'en plus la construction était très difficile. On n'était que deux pour construire cette grande porte en bois, et on a fini donc.
Où il y a la mise en œuvre d'une ossature, d'une structure
ouais,
en
voilà,
fait.
Voilà, d'une structure en bois. Mmh. Exactement, c'est ça.
À l'époque des Folies, au 18e, on faisait des parcours comme ça. Et ça reprend un peu cette idée, mais dans une interprétation. Évidemment, très contemporaine.
Oui, voilà. Ce qui nous intéressait, en fait, c'était l'idée que une porte d'entrée, alors on nous donne comme contrainte la porte d'entrée, mais sauf qu'on rentre pas dans un parc, en fait, comme on rentre dans une pièce. Donc on rentre, il n'y a pas de plafond, enfin, c'est un parc. Et donc, comment réinterpréter cette entrée à travers l'expérience du passage, passer dessous? Donc c'était un peu le leitmotiv, et c'était surtout la situer, parce qu'on pouvait se mettre un peu où on voulait devant cette passerelle, c'était la situer en fait au centre de toutes les contraintes possibles qu'il pouvait y avoir, parce qu'on a donc un environnement extrêmement naturel, on a ces montagnes, ce parc très naturel, on a une plaine des sports extrêmement urbaine, vraiment juste, et puis on a des éléments très horizontaux qui sont la rivière, les pierres, le ciel. Donc voilà, et c'est en fait à la convergence de tous ces milieux très hétéroclites qui nous semblait pertinent en fait d'installer cette porte. Quoi.
Et alors les gens qui vous faisaient des réflexions, qu'auraient-ils voulu rien? Ou alors des portes avec des petits anges? Ou des petits nains de jardin?
Ils auraient voulu rien. Voilà, ouais. Pour être très honnête, ils auraient préféré qu'il n'y ait rien. Voilà.
Ouais. Bon. Et les employés municipaux, alors peut-être que aussi dans des contrées, enfin dans des villes ou dans des villages où il y a peu de, ou dans des quartiers, la parole peut circuler de manière très positive comme de manière plus négative aussi.
Ouais, tout à fait. Ouais. Mais moi, j'ai adoré travailler donc avec les employés municipaux parce qu'ils étaient extrêmement réceptifs en fait. Ils se demandaient, donc ils étaient en attente, en demande d'explications, de savoir ce qu'on faisait. Ils étaient plutôt curieux, de la jeunesse, de ce qu'elle pouvait proposer. Et puis, ils avaient l'impression de prendre part au projet, enfin de prendre part à la construction. Et ça a donné une alchimie vraiment super agréable, en fait. Hein, voilà, c'était vraiment, enfin, en tout cas avec les employés municipaux, c'était super, quoi.
C'est réalisé en quel bois?
C'est du résineux, c'est du sapin, non traité. puisque c'est censé être une installation plutôt éphémère. Donc c'est vraiment le début de ce concours lancé par la ville de Bourg-Saint-Maurice. Ils ne savent pas combien de temps ils vont la laisser. C'est une espèce de charpente avec un système de portiques qui se répète. On a en fait des bancs qui étaient initialement pas prévus, qui viennent en fait lester l'installation. Et ensuite, donc, on a un système de poteaux moisés qui vient s'entrecroiser avec la charpente supérieure, voilà.
Et puis, vous pouvez expliquer aux auditeurs profanes ce qu'est le poteau moisé?
Alors, le poteau moisé, c'est comme deux poteaux verticaux avec un élément horizontal qui vient se pincer dedans.
Vous souhaitiez compléter sur ce projet? Vous aviez d'autres choses à... Par exemple, Arche d'Élie vous a donc remarqué, vous l'avez renseigné, vous l'avez rendu visible,
ouais,
sur ce blog, parce qu'en fait, Arche d'Élie, ça fait partie des grands blogs de l'architecture,
ouais,
où chaque architecte met son projet.
Ouais.
Il a été remarqué, et vous savez quand le verdict va tomber?
Alors en fait, il y a une phase de présélection donc qui se passe par vote. Donc les gens votent pour leur projet, donc là dans la catégorie installation et petites échelles. D'ailleurs je trouve ça super bien qu'Arche d'Élie fasse une catégorie installation et petites échelles. Et à la fin de ce vote, donc qui se finit le 15 février, ils en retiennent 5. Et là ces 5 projets finaux passent sous le regard d'un jury professionnel qui donc décide quel est le lauréat dans cette catégorie.
D'accord. Et... C'est mondial?
Ouais, c'est mondial.
Donc c'est déjà formidable. Parce que
c'est formidable.
Comme sélection, parce que là, pour le coup, c'est Arche d'Élie qui a retenu votre proposition.
Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est-à-dire que Arche d'Élie, on soumet des projets, la plupart des fois sont pas retenus, et généralement, dans les projets de l'année, ils font une sélection après qui rendent public pour ce vote du bâtiment de l'année, bon là, en l'occurrence, 2024.
D'accord. Et ça a été livré quand?
Ça a été livré, donc la construction a duré 5 jours, entre 2 et 5 jours, avec après une préfabrication, et ça a été livré donc en juin 2023.
Alors, pour les auditeurs profanes qui nous écoutent, ils peuvent se dire, oh là là, on en fait tout un plat alors que ça a été fait en 5 jours,
ouais,
que c'est une intervention finalement, ouais, un peu minimaliste.
Ouais.
Mais qui symboliquement porte du sens et porteuse,
oui,
de sens, parce que c'est non-polluant, parce que c'est décarboné,
ouais,
parce que c'est une métaphore de l'architecture contemporaine aussi,
ouais,
dans ses évolutions, avec un retour aux matériaux, entre guillemets, nobles.
Ouais.
Tout ça est juste.
Tout ça est juste.
Et oui, c'est très important pour vous.
Ouais, c'est très important pour moi parce que je pense que les futures générations d'architectes, donc de mon âge ou plus jeune, vont devoir s'atteler à la réparation de l'existant. Il va falloir malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, de moins en moins construire. Et donc moi, je pense qu'il y a deux pans très intéressants. Donc ça va être la réparation de l'existant, la réhabilitation d'un côté, et puis ça va être la création de petites architectures éphémères pour venir mettre un peu de poésie et de nouveauté dans tout ça.
Oui.
Voilà.
Alors peut-être que c'est votre point de vue à l'instant T. Mais enfin, je parle des constructions éphémères.
Oui.
Ceci étant, je trouve, mon point de vue, c'est que votre jeune génération est force de proposition pour les entrées de ville, pour les, oui, périphéries de village, pour redonner une esthétique forte justement réparer cette France moche.
Oui.
Voilà.
Tout à fait, je me retrouve tout à fait dans ce, oui, je me retrouve tout à fait dans ce discours, puisque moi, venant de villes moyennes, enfin, j'ai tout à fait souffert de la désertification des centres-villes, et puis du phénomène de métropolisation qui a aspiré toutes les richesses de nos territoires périphériques, petites villes moyennes. Et voilà, on se retrouve avec un énorme chantier. Et je pense aussi qu'il est très important que l'architecte et nos architectes reviennent travailler dans ces territoires. qui aujourd'hui manquent d'architectes, qui sont plutôt tous concentrés dans des grandes villes, elles font des grandes opérations. Et il y a beaucoup de petits projets très intéressants justement pour réparer des villes, des entrées de villes, des villages, voilà. Et voilà.
Aider la ruralité aussi.
La ruralité aussi, tout à fait, ouais. Moi, je pense que c'est très important, en tout cas, d'aller dans ces territoires. Et je pense que c'est une responsabilité de l'architecte aussi de ne pas s'occuper que de certains territoires, voilà.
Alors, j'ai été me promener un petit peu sur votre site internet, ouais. Et j'ai vu que vous étiez penché sur les moutons, la transhumance. Et... Vous pouvez nous raconter cette histoire? Parce que, quelque part, c'est du flux, mais c'est pas de la construction.
Oui,
l'histoire
tout à fait.
Des bergers.
Alors, donc c'est mon projet de fin d'études, finalement, qui, dans sa forme, n'est peut-être pas parfait, en tout cas, raconte une histoire qui, pour moi, est très importante et un positionnement d'architecte qui, selon moi, est très important. Il va manquer, en fait, 10 000 bergers qui ne seront pas renouvelés, en fait, pour des départs à la retraite. Et l'importance de la transhumance des moutons, en fait, c'est que, eh bien, ils entretiennent la montagne, ils réduisent le risque d'incendie, ils permettent aussi le maintien de la biodiversité. Donc c'est très important, en fait, que ces bêtes pâturent, se promènent en montagne. Et puis ils produisent du lait, de la laine, de la viande. Et donc d'où mon activité d'enseignant, qui pour moi est très importante, en fait. Mes parents étaient enseignants, et aujourd'hui, comment on enseigne à être berger? Malheureusement, ce sont dans des lycées agricoles, sur des formations très courtes. Et donc beaucoup de gens venus des grandes villes se disent: je vais devenir berger, donc ils deviennent bergers, sauf qu'une fois arrivés en montagne, dans les conditions, c'est très rude, et puis ils arrêtent de suite. Et donc l'idée, en fait, de ce projet, c'était de dire, eh bien, on va faire de la pédagogie active, c'est-à-dire qu'ils vont aller directement apprendre dans le milieu où ça se produit. Donc le projet est un projet d'école de berger.
In situ.
In situ, voilà. Voilà, pour moi, c'est très...
Avec, du coup, la petite maison de berger perché dans la montagne?
Alors non.
Non.
Un peu plus grande. En tout cas, il y a une très forte attention au paysage, c'est-à-dire qu'on a une toiture qui vient un peu épouser la forme donc de la montagne, donc avec une architecture plutôt enterrée, mais en tout cas qui vient inclure les endroits pour dormir et puis les endroits pour apprendre à dresser les chiens de berger, parce qu'il y a, en fait, il y a beaucoup de métiers qui se greffent autour, on n'a pas l'impression comme ça. Dresser les chiens de berger, entretenir les sabots, donc voilà. Donc c'est un programme très complexe, mais très intéressant.
Voilà, et c'est un retour aux sources,
ouais,
que vous proposez. Et vous avez réagi en disant, mais non, quand je vous ai parlé de la petite maison de berger, parce que ça a quelle taille, ça...
Alors c'est un programme qui fait 2500 mètres carrés quand même.
Ah oui.
Ouais, ouais. Et oui, parce qu'il faut accueillir beaucoup d'étudiants malgré tout.
Pour, oui, en fait c'est plus un centre de formation.
C'est un centre de formation. Donc voilà, mais il y a une urgence quand même, il faut rester... Je pense que l'architecture doit rester crédible et il y a des besoins très importants de formation.
Et dans ce métier de berger, vous n'avez pas pensé justement à l'habitat du berger une fois qu'il est tout seul, tout en haut, avec ses bêtes? Comment ça se passe?
Comment ça se passe quand lui est tout seul?
Ouais.
On est sur des habitats qui sont très vernaculaires, finalement. C'est ce qu'on a coutume d'appeler l'architecture sans architecte. Et moi, c'est quelque chose qui me fascine. C'est des conditions de vie qui sont extrêmement dures. Il n'y a qu'un petit réchaud. Ils arrivent là, ils dorment. Mais je veux dire, après avoir marché toute la journée, ils ont plus envie, c'est de dormir. Donc, ce n'est pas un habitat traditionnel. Il n'y a pas de télé, etc. Donc, oui, c'est notre façon de vivre. On est proche de l'abri, de la caverne. D'un retour à une vie plutôt sauvage.
Et est-ce que c'est obligatoire, ça, ce retour à la vie sauvage? Parce que peut-être que justement, un jeune architecte comme vous pourrait s'emparer aussi de ce sujet-là, au-delà du centre de formation.
Ouais. En tout cas, quand moi, puisque j'ai eu la chance d'avoir un enseignant qui a fait Paris-Belleville et donc issu d'Henri Siriani et Didier Girard, une gymnastique du logement très spécifique, en fait, on s'aimait beaucoup, mais c'est vrai que moi j'avais une vision du logement qui se dit: est-ce qu'on doit faire le logement aujourd'hui comme on l'a toujours fait? Voilà, qu'est-ce que le logement aujourd'hui? Est-ce qu'on a les mêmes besoins, en fait? Est-ce qu'on doit même dans ces territoires qui sont extrêmement urbains, est-ce qu'on doit faire le logement, en fait, comme on connaît tous? Et donc, c'est une question, oui, qui m'anime beaucoup, en fait, sur la question, ça peut être la question des volumes capables, ça peut être la question de la réversibilité de certaines pièces, la pièce en plus, qui est le garage dans les lotissements. Moi, par exemple, ma mère habite un lotissement, le garage n'a jamais servi à mettre la voiture, et j'ai travaillé sur un projet qui visait, justement, à qu'est-ce qu'on fait de cette pièce en plus. Donc voilà, je pense que, en tout cas, ça peut nourrir beaucoup de manières, en fait, de repenser le logement.
Alors, retour aux sources, transmission. Peut-être avez-vous envie de parler de la modernité? Parce que vous parliez de votre amour de l'art contemporain.
Ouais.
C'est vrai qu'actuellement, il y a une France un peu plus traditionnelle qui est vent debout face à ces valeurs-là.
Oui.
Moi, ça me fait toujours beaucoup de peine parce que je me dis ils sont dans l'ignorance de quelque chose qui est très riche. Comment vous l'appréhendez? Quel est votre questionnement par rapport à ça?
Alors, mon questionnement sur la modernité, c'est justement c'est la non-compréhension de ce mouvement qui fait qu'on a des envies de radicalité totale par rapport à ce mouvement. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à en tirer. Moi, je donne un exemple très simple, par exemple, c'est dans les 5 points de l'architecture moderne et du Corbus, c'est la toiture terrasse. Et moi, je vois plein de mes étudiants, de mes camarades qui font des toitures terrasses, mais sauf que ces toitures terrasses, en fait, ne sont pas accessibles. Parce que qu'est-ce qu'avait dit le Corbusier? C'est qu'il y a un solarium dessus. C'est une façade en plus. Et donc, je ne vois pas, en fait, l'intérêt de mal réinterpréter cette modernité. Si elle est mal réinterprétée, elle n'est pas
dans
pertinente.
Voilà,
c'est ça. Oui. À partir du moment où elle est réinterprétée de manière pertinente, elle est intéressante. Mmh. Voilà.
Et puis, dans cette faculté d'abstraction qu'ont les modernes, quand on commence à apprendre à voir le monde dans lequel on vit, on peut, faire des focales et abstraire des tas d'éléments qui portent du sens.
Oui.
C'est un peu une manière de regarder ce qui nous entoure dans un microscope.
C'est exactement ça. Et même la réinterprétation, l'abstraction par les formes géométriques me paraît très intéressante parce qu'il permet aux personnes qui voient cette architecture d'imaginer ce qu'ils veulent, en fait. Un peu comme dans la peinture.
Alors, j'avais aussi une autre question un peu de cet ordre. Vous avez fait beaucoup de musique électronique, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Donc vous avez cette sensibilité aussi forcément à l'intelligence artificielle?
Tout à fait.
Et comment vous arrivez à faire une synthèse entre cette envie d'un retour aux sources ou cette nécessité même, c'est de la vitalité finalement?
Ouais.
Et cette intelligence artificielle qui nous tombe dessus et on a l'impression qu'elle va nous dévorer le cerveau. Comment vous faites la synthèse de tout ça dans votre discipline, l'architecture?
Alors, pour commencer, c'est quelque chose qui est très dur par rapport aux étudiants que j'ai en face de moi, puisque comment la détecter? Comment savoir, en fait, ce qui est issu de l'intelligence artificielle? Voilà. Et comment, en fait, quel positionnement prendre par rapport à cet outil avant moi de le prendre comme architecte? Mais je trouve qu'il est toujours intéressant, moi, l'intérêt de l'architecture se situe toujours dans ces paradoxes-là, quoi. Et l'intelligence artificielle, je pense, doit être enseignée, transmise, pour que justement elle ne soit pas utilisée avec négligence ou avec...
Ou aux dépens,
c'est ça. Oui. Donc moi, j'ai toujours tendance à dire il faut l'utiliser comme un peu comme un esclave, en fait. Il ne faut pas qu'elle produise à notre place. Elle peut nous faire gagner beaucoup de temps sur des tâches qui ne nécessitent pas, en fait, de plus-value intellectuelle, de plus-value architecturale. Elles ne doivent pas créer à notre place. En revanche, c'est vrai que des fois, quand on a 50 mails à écrire, ça peut être extrêmement aidant. Oui. Et en revanche, j'ai un autre exemple, mais sur un exercice que j'ai donné récemment à des étudiants où je leur ai fait faire des toutes petites maquettes en papier. Et en fait, ils mettent cette maquette en papier sur un logiciel d'intelligence artificielle qui va leur générer comme des variantes de ça. Donc ça peut prendre une place dans le processus de conception sans être la finalité. Et c'est intéressant parce qu'en montrant leurs variantes, ils peuvent rebondir, en fait, ils peuvent créer un jeu de ping-pong avec cette intelligence artificielle qui peut être assez intéressant.
Alors justement, est-ce que vous pouvez recontextualiser votre enseignement et puis peut-être nous dire après ce que vous souhaiteriez pour la suite de votre activité en tant qu'architecte?
Oui.
Ou si vous avez déjà des projets?
Oui. Donc pour moi, l'enseignement a toujours fait partie intégrante de ma pratique. J'ai commencé à enseigner quand j'étais encore à l'école d'architecture, ce qui était une position pas très facile à tenir quand même, parce que j'ai des parents, une grande famille d'enseignants, et c'est vraiment une vocation. Et pour moi, ce qui me paraît absolument nécessaire, c'est que ce contact avec les étudiants, déjà, me force à tout le temps me remettre en question, parce que quand on est architecte, on a souvent beaucoup de convictions, et souvent ces convictions sont parfois des œillères. Et donc c'est bien aussi d'avoir cette fraîcheur qui permet de se remettre en question de temps en temps. Ils m'apprennent beaucoup de choses aussi. Et puis aussi, je ne me sentirais absolument pas légitime d'enseigner si je n'avais pas de pratique. Donc pour moi, les deux vont absolument ensemble. J'ai beaucoup d'amis qui me demandent si jamais j'ai un jour une grosse agence, est-ce que j'abandonnerai l'enseignement ? Je vois pas ça possible. Mmh. Voilà. Donc voilà, ça me paraît vraiment très important. C'est quelque chose de très passionnant.
D'accord. Donc en fait, vous voulez continuer en votre nom propre ?
J'ai un souhait donc de m'associer avec les deux personnes, Quentin Barthes et Tom Patnott, avec qui je fais ces petites installations en bois, dans le futur, mais comme ils sont très jeunes, ils sont encore en train de passer leur HMONP. Donc là, on va dire que j'ai une pratique libérale et je viens un peu butiner sur plusieurs projets. Je viens chercher les savoirs quand j'en ai besoin. Voilà. Par exemple, j'aime beaucoup faire appel à des paysagistes, mais dès le début du processus de conception, même si c'est pas forcément obligatoire, des coloristes, des artistes, voilà, en fonction des opportunités qui se présentent. Et puis voilà, en fait. Et je rebondis sur ce fait que l'enseignement me permet, en fait, d'avoir économiquement un filet de sécurité qui me permet, en fait, d'accepter des projets qui me font plaisir, parce que quand on fait des études aussi longues et aussi difficiles, bah, parfois on a tendance à oublier le plaisir. Et moi, j'ai beaucoup d'amis salariés qui ont plus trop de plaisir à faire d'architecture. Et moi, je trouve que c'est important pour faire une bonne architecture d'avoir du plaisir à la faire. Donc voilà, tout ça forme une espèce de modèle économique et de modèle intellectuel qui me convient très bien.
Oui. Voilà. En fait, vous avez réussi, par votre capacité à enseigner, à préserver un petit peu votre désir d'architecture,
voilà.
Tout simplement.
Et ma liberté d'architecture.
Oui.
Voilà. Même si c'est pas si simple que ça, quand même.
La liberté, il faut beaucoup travailler pour la gagner. Beaucoup, beaucoup,
c'est ça,
beaucoup.
Ce que j'appelle le luxe du choix.
Oui.
Mais on se confrontera toujours à des contraintes malgré tout, et c'est ce qui reste passionnant dans l'architecture.
Alors, on va encore continuer un petit peu sur les étudiants dans la partie sociétale de Comme d'Archi. On vient de traverser des périodes vraiment très compliquées. Oui. Le Covid, une guerre, deux guerres, des dirigeants à travers le monde dont on a l'impression que ce sont des dictateurs tout droit sortis de caricatures.
Oui.
Et ça fait froid dans le dos.
Oui.
Même si on n'a pas envie d'avoir peur et qu'on continue de vivre et que c'est comme ça. Dans ce contexte-là, vous êtes amené, vous, à projeter sur un temps long, sur les projets d'architecture. Quel éclairage donneriez-vous à tout à chacun pour appréhender ce monde ?
Alors c'est vrai que si on regarde le monde de manière très objective, c'est difficile d'être optimiste. En revanche, je pense que, et ça c'est également quelque chose de très important, quand on fait ce métier par passion, mais vraiment par passion, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de camarades en école d'architecture qui n'étaient pas forcément passionnés, ils étaient arrivés un peu là par hasard. Quand on est vraiment passionné par sa pratique et qu'on fait de l'architecture avec plaisir, on a cette chance formidable de pouvoir rendre le monde meilleur à notre niveau et aussi se le rendre à nos yeux un peu plus optimiste, quoi. Voilà. Parce que, évidemment, que c'est pas juste en faisant de l'architecture qu'on va régler tous ces problèmes, ça peut être très pesant. Donc je pense que la passion entretient une certaine flamme, une espèce d'insouciance et puis une espèce de plaisir qui nous permet de continuer à espérer que ça va bien aller. Et voilà, et c'est d'ailleurs un message que j'ai envie de transmettre, il faut vraiment être passionné. Voilà, parce qu'on a on a la chance de faire pour moi l'un des plus beaux métiers du monde. On a un impact sur le monde qui est formidable, hein, mais on a aussi une énorme responsabilité à travers les architectures qu'on fait et l'impact qu'elles vont avoir sur le monde et sur les gens. Donc voilà.
Vous imaginez le monde de demain en architecture ?
Comme je l'ai dit plus tôt, alors c'est pas une vérité absolue, mais moi je souhaiterais en tout cas que le monde de l'architecture de demain se concentre davantage en fait justement sur l'amélioration du déjà là, sur une forme d'autocritique aussi de notre profession pour savoir comment on en est arrivé là, est-ce qu'on a tout fait bien, puisque tout s'accélère énormément. Et puis ça vient aussi d'une certaine vision de l'aménagement du territoire, selon moi. C'est-à-dire que, eh bien, si on continue en fait à concentrer le travail dans les métropoles, eh bien, on va avoir toujours besoin de plus de logements. Et puis on va en fait essayer de mettre au chausse-pied plein de gens dans des espaces qui ne peuvent plus accueillir de personnes. Donc je pense qu'il faut réinvestir les territoires ruraux. Il va aussi, selon moi, y avoir un retour à des pratiques artisanales. Il va y avoir encore plus de noblesse sur plein de métiers artisanaux qui sont liés ou pas au bâtiment, qui va être, selon moi, très intéressant.
Donc finalement, il y a plein d'espérance.
Ouais, il y a plein d'espérance.
Puis on a la chance d'avoir à notre portée des outils formidables.
Oui.
C'est l'évolution du monde en très peu de temps a apporté aussi des technologies incroyables.
Oui, oui, l'arrivée d'Internet est quelque chose de formidable. Alors, comme toutes les technologies, comme l'intelligence artificielle, l'arrivée d'Internet, le BIM, toutes ces technologies, en fait, si on ne s'informe pas dessus, si on n'a pas la curiosité de comprendre comment ça marche, eh bien on va mal l'utiliser. Donc je pense qu'il faut être extrêmement curieux de ces nouvelles technologies, il ne faut pas être défiant, il faut être curieux et les utiliser en fait à notre avantage.
Mmh. Quel conseil donnez-vous à vos étudiants en architecture de manière globale ?
De manière globale, c'est d'être extrêmement curieux. Mmh. Je pense que beaucoup en fait ont tendance soit à ne s'informer que d'architecture, déjà très peu, et je pense qu'il faut ouvrir les yeux, ouvrir les portes du monde qui nous entoure, aller voir l'art, la cuisine. Donc je leur conseille d'être extrêmement curieux, de manière à ce qu'il n'ait pas une culture monolithique uniquement centrée sur l'architecture. Il faut qu'ils aillent explorer les jardins, le paysage, l'histoire, tout ce qui fait en fait une culture générale, en fait. Une culture générale est très importante. Pas qu'une culture scientifique, pas qu'une culture architecturale. Mmh. Voilà, c'est très important.
Et est-ce que vous avez, à l'intérieur de l'école, j'ai pas l'impression, parce que je trouve que le discours en sortant de l'école est assez affûté, en fait. Mais cette génération qui est tout le temps penchée sur son téléphone et sur TikTok, etc., ça fracture un peu à l'école d'architecture. Enfin, ça crée des vides. Parce qu'on travaille en architecture sur la matérialité, donc ça s'en éloigne dans le monde.
Oui, le monde virtuel est un vrai ennemi, un vrai piège. Malheureusement, des fois, moi, je suis obligé d'interdire ces outils. Pas par plaisir, quoi, mais...
Pour leur permettre de se concentrer.
Pour leur permettre de se concentrer sur la matière, c'est voilà. Moi, je me souviens, à l'école d'architecture, on nous prenait pour des malades. On touchait les murs, on touchait le sol, voilà, on faisait des dessins de détails qui paraissaient insignifiants. Et c'est très important, en fait, d'exercer le regard. Je pense que le regard est notre outil le plus précieux en architecture. Et pour leur ouvrir les yeux, il faut en effet qu'ils regardent ailleurs que sur leur téléphone, ou à travers le téléphone.
Alors c'est vrai que vous avez fait beaucoup d'apprentissage avant d'arriver à l'école d'architecture.
Oui.
Mais on sent une maturité en vous, et c'est assez étonnant parce que vous êtes à la fois presque un étudiant, mais vous avez cette maturité pour embraser l'enseignement en école d'architecture. Donc bravo, c'est bien.
Merci.
pas de travail en agence ?
Alors si, moi j'ai quelques petits projets très passionnants, d'autres diront que c'est des projets un peu anecdotiques, mais par exemple je travaille sur une salle de bain de 5 mètres carrés, mais pour laquelle en fait j'ai un maître d'ouvrage passionnant, et donc je travaille avec un artisan qui habite à côté de Libourne et en fait qui fait beaucoup de chantiers de démolition dans la région, qui récupère en fait les matériaux Et donc, il a une espèce de grand hangar avec plein de matériaux. Et donc, moi, en fait, je vais prendre ces matériaux et dessiner le projet en fonction des matériaux disponibles. Donc, des carreaux de Gironde qui sont incroyables, des vieux établis en bois, etc. Et je trouve que c'est une façon intéressante d'inverser le projet. Voilà, c'est un genre de réemploi. Hein. Et il y a une quantité de détails sur l'objet de la salle de bain, le bain, se doucher, qui est passionnante en fait.
Sûr,
j'aime beaucoup tous ces petits sujets. Et puis voilà, et puis comment on utilise ces matériaux dont on a complètement oublié la manière de les mettre en œuvre, etc. Voilà, donc j'ai également une réhabilitation d'un ancien hôtel à Bergerac en 9 logements, réutilisé. Un hôtel qui était abandonné pour faire du logement, tout ce qui est plus modeste. Voilà, donc des petits projets comme ça, mais qui me plaisent beaucoup et sur lesquels j'ai envie de travailler à fond, quoi.
D'accord. Mais vous travaillez en nom propre dessus?
Oui, je travaille en nom propre dessus. Voilà.
Que ça soit bien clair. Qu'est-ce que vous aimeriez dire pour conclure?
Alors, j'ai envie de dire un truc un peu engagé.
Allez-y.
Alors... aimez-nous, les architectes, nous sommes des personnes très ouvertes. Notre mission première, c'est le conseil. Donc, surtout, n'hésitez pas, dans un pays comme la France, qui n'a plus trop confiance en ses architectes, n'hésitez pas à venir nous voir, en fait, parce qu'on a plein de choses à partager. On serait ravis, en fait, de travailler avec toutes les personnes qui pensent pourtant ne pas avoir besoin d'architectes. Voilà. Et puis, pour les générations futures aussi, j'insiste sur le fait d'être curieux, de s'ouvrir aux autres et voilà. Et je remercie aussi tous les enseignants qui m'ont permis de devenir ce que je suis aujourd'hui, même si c'est un peu cucu.
Oui, bah la transmission c'est.
La transmission est très importante.
C'est oui. Voilà. On peut rien inventer. On ne peut rien inventer si on n'a pas déjà des acquis importants.
Ouais, et puis on invente rien en même temps.
Oui, je suis entièrement d'accord. Et je ne voulais pas prononcer un mot qui a été très galvaudé d'ailleurs. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup Martin pour ce témoignage vraiment intéressant. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.
Merci beaucoup à vous et à bientôt. Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.